Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle et bon week-end. Rendez-vous
bon
lundi.
Week-end à lundi.
François, qui est donc là.
Oui, bon, rebonjour Pascal.
Voilà, rebonjour. Vous dites c'est un devoir finalement d'aller voter.
Ben c'est un droit qu'on a acquis de haute lutte. Et je rappelle que pour les femmes en France, il ne date que de 1946, hein, donc c'est quand même de haute lutte, hein, c'est pas gagné. Et ce droit, si on ne l'utilise pas, on passe à côté de quelque chose. Et à un moment, on peut pas dire qu'on se plaint de nos hommes politiques quand on a la possibilité de les choisir et de les élire. Donc ce droit, qui est un droit fondamental, devient un devoir quelque part. On se doit d'aller voter, parce que je vais être un peu provocateur et volontairement provocateur. Nous n'avons que les hommes politiques que nous méritons. Donc au moins on ira voter. Au moins on encouragera les vocations et puis on sera dans le reproche, on pourra toujours reprocher que c'est un microcosme qui ne nous parle que quand il se fait réélire, etc. Alors que tous les 5 ans on a cette chance là, on a ce bonheur. Enfin, je rappelle qu'il y a des pays où on n'a pas le droit de vote, hein, où on a des gens qui sont élus avec 95% des voix, quoi.
Non, mais la question, non pas la question d'ailleurs, mais ce que vous dites est intéressant quand vous dites on a les hommes politiques que nous méritons. C'est intéressant comme question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui... Si on veut approfondir cette réflexion, qu'est-ce que vous entendez par là?
Ça veut dire qu'on peut tous... On a tous le choix de s'engager en politique, au syndicalisme, dans le monde associatif, et qu'à un moment, il faut aussi pouvoir susciter les vocations. Imaginons que le taux de participation soit record, qu'on ait du monde qui vote, eh bien on aura forcément des gens qui seront intéressés par la vie politique, alors la vie politique avec un grand P, c'est-à-dire se mettre au service de la société, du débat public, parce que ça donnera du crédit, et on pourra probablement susciter les vocations. Là, aujourd'hui, pourquoi voulez-vous vous engager? Parce que, bon, globalement, je vais être élu par 20 ou 25%, donc j'ai probablement mieux à faire. Je vais pas me... Pourquoi je me présenterai dans une mairie, même une mairie d'une commune rurale? Parce que je vais avoir beaucoup d'ennuis, beaucoup de responsabilités, peu de reconnaissance. Donc pourquoi je prendrais ce risque alors qu'il y a peu de gens qui vont, voter et qui disent à longueur de journée à la télé ou à la radio, on ne sait pas à quoi ils servent, ça ne sert à rien, etc. Sauf que, dans la réalité des faits, quand on perçoit le RSA, c'est bien le département qui en a la charge. Quand on donne des subventions pour reconstruire ou pour améliorer la vie d'un lycée, et donc des lycéens, c'est bien le conseil régional qui les paye. Quand une mairie est aidée pour construire une salle de sport, c'est bien la région ou l'État qui finance. Donc à un moment, quand je dis qu'on veut que les hommes politiques qu'on mérite, parce au moins on aura voté, et ben on gardera tout le temps les mêmes, parce qu'il n'y aura pas ce renouvellement naturel, cet engagement naturel. Et c'est ça le risque. La richesse vient de la différence et des idées qu'on peut apporter. Et donc, engageons-nous, on n'est pas d'accord. Eh bien, on a le droit de voter contre, pour ou contre, mais si on n'est pas d'accord et si on a des idées, faisons les partager, engageons-nous, allons-y.
J'ai vu, François, un sondage passé hier et 60% des Français trouvaient qu'ils ne s'étaient pas déplacés parce que les candidats, les partis n'avaient pas su les intéresser à l'élection. Donc c'était pas tant pour des raisons présidentielles ou gouvernementales qu'ils n'étaient pas allés aux urnes, c'était vraiment parce que dans leur région, les candidats, les partis n'avaient pas su suffisamment les intéresser à l'élection régionale, en l'occurrence.
Est-ce qu'il n'est pas de notre responsabilité de s'intéresser un peu aussi à ce qui se passe et de ne pas tout attendre que tout nous tombe tout cuit dans la bouche? J'ai entendu dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'était pas bien, on n'a pas reçu le matériel de vote ou à la maison, etc.
Non, mais ça, c'est un prétexte. Mais en revanche...
Ça, on est bien d'accord. On a le droit aussi de s'intéresser à ce qui se passe, quoi.
Oui, mais la question de fond qui est la politique qui a perdu et du prestige et du pouvoir, certains ont le sentiment que ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement, que c'est pas là que ça se joue,
alors qu'il y a des choses qui sont excessivement concrètes. Il y a quand même des choses concrètes. Et alors, peut-être, là, par contre, il faut quand même, là où les partis politiques ou les syndicats ou quel que soit, doivent balayer devant leur porte, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on doit, à longueur de temps, répéter ce que l'on fait, à quoi ça sert, pourquoi et comment. Le temps que l'on a à obtenir les subventions pour faire bâtir, je prends l'exemple de la salle de sport, mais quand un maire a un projet, entre le moment où il a l'idée, il met en réalisation et où la salle de sport va être inaugurée, il peut se passer 2 ans parce que il y a des mécanismes de subvention à obtenir, c'est long, etc. Mais ça contribue à la vie de la société. Et encore une fois, Il faut pouvoir s'engager. On ne peut pas dire à un moment que ça nous intéresse pas parce qu'on non, on peut aller. Enfin, je veux dire, la presse quotidienne en parle. Le maire est quelqu'un que l'on peut rencontrer. Le conseil régional, il est souvent élu d'un conseil municipal, on peut le rencontrer. Enfin, il faut aussi que nous, on se prenne à un moment en charge.
Eh bien, écoutez, cette politique volontariste, nous l'entendons. Merci François. En tout cas, vous étiez le premier auditeur. Je salue Greg Caradoni à qui
bonjour
j'ai demandé une petite playlist.
Ah.
Oui, parce que le sport vous fait-il rêver? Eh bien, ce que je vous propose jusqu'à 14h30, c'est de retrouver des grands moments de commentaires sportifs sur RTL ou peut-être aussi ailleurs. Il y a le fameux but de Diego Armando Maradona. C'était il y a exactement plus 35 ans, quasiment jour pour jour, commenté par le commentateur argentin. Le fameux but où il élimine absolument tout le monde, pas la main de Dieu. Bon, ça, c'est un commentaire unique. Et puis, on entendra peut-être des grands moments. Thierry Roland, pourquoi pas? Eugène, pourquoi pas aussi?
Jean-Michel Rascol.
Jean-Michel, bien sûr, Rascol, l'ami Christian Olivier. Donc des grands moments de sport, Isabelle Langer. Le sport vous fait-il rêver? En tout cas, souvent les commentateurs sportifs font rêver.
J'imaginais qu'en playlist, vous me demanderiez du Michael Jackson.
Jackson, c'est une des questions qu'on va poser. Est-ce que vous l'écoutez de la même manière que vous l'écoutiez avant? Ou est-ce que vous ne l'écoutez plus, tout simplement? Moi, j'ai le sentiment que les radios le programment moins, en tout cas. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour
ce vendredi.
Pascal, bonjour à tous. C'est l'une de nos questions du jour. Irez-vous voter dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales? Selon un sondage IFOP pour le JDD, la participation s'élèverait à 36%. François a été le premier à réagir au 32-10.
C'est un droit qu'on a acquis de haute lutte. Et à un moment, on ne peut pas dire qu'on se plaint de nos hommes politiques quand on a la possibilité de les choisir et de les élire. Donc ce droit, qui est un droit fondamental, devient un devoir quelque part. On se doit d'aller voter.
Et pourquoi faire? Demande Angevin sur la page Facebook de l'émission. Les politiciens ne le méritent pas. Ne comptez pas sur moi, rajoute Sandrine. Quand la politique sera plus sérieuse et moins menteuse, je ferai un effort. S'abstenir, c'est se taire ensuite, écrit Frédéric. Mijot se déplacera. En tant que femme, je vote toujours. On a mis beaucoup de temps à obtenir ce droit. Donc, vieille, jeune, il faut vous exprimer, mesdames. Eric lance sa proposition sur nos réseaux sociaux. Si, comme certains le font pour le vaccin ailleurs dans le monde, on promettait une glace ou une place de cinéma, ça pourrait peut-être faire baisser l'abstention.
C'est très générationnel parce que, en fait, nous, on était très fiers de voter quand j'avais 18 ans. J'attendais ça avec impatience. Et depuis, j'ai toujours aimé voter et voulu aller. Alors peut-être parce qu'on est journaliste et qu'on s'intéresse aussi à l'actualité, mais entrer dans un bureau de vote, voir les gens, demander qui a voté pour qui, de voir la population. J'ai toujours été intéressé par cet univers. Bonjour Francis.
Bonjour Pascal et bonjour à tous.
Alors vous, manifestement, c'est le contraire. Vous n'allez plus aux urnes.
Ben, je ne vais plus aux urnes si j'ai quelque chose de plus intéressant à faire. Sinon, je vais aux urnes et je vote nul. Parce que, contrairement à ce que pense François, votre auditeur précédent...
Vous votez nul ou blanc?
Nul.
Ah oui.
Nul, puisque
c'est pas
le,
la même
le
chose.
Blanc... Non, c'est pas du tout la même chose. Le blanc ne sert à rien, il n'est pas compté.
Ah si, il n'est pas compté, mais il est exprimé.
Il est exprimé, mais je préfère m'exprimer en passant un message.
Oui, mais les nuls, c'est marrant parce que les bulletins nuls ne sont pas exprimés, alors que les bulletins blancs, maintenant, sont exprimés. Mais
oui,
ils ne sont pas comptabilisés,
vous...
il y a une petite subtilité. Les nuls ne sont pas mis avec les blancs, si vous préférez.
Oui, non, mais je connais parfaitement le système. Et si vous mettez un bulletin blanc, mais d'un blanc qui soit un peu gris, vous savez qu'il sera compté en nul et qu'il ne sera pas compté en blanc, même s'il n'y a rien d'écrit sur la feuille. Si vous mettez un morceau de feuille bleue aux bonnes dimensions du bulletin, ce ne sera pas compté. Mais peu importe, ça fait partie du cinéma autour du vote. L'auditeur précédent a dit le vote est un droit et ça devient un devoir. Moi, je vais vous donner une autre définition du vote. Le vote est un leurre démocratique, c'est-à-dire qu'au travers du vote, on continue à nous faire croire que nous sommes en démocratie, que le peuple a les choses en main, alors que le peuple n'a pas les choses en main. J'ai voté, j'ai été un ardent participant aux élections, aux réunions, aux conférences et aux meetings et à tout, sans être jamais... dans aucun parti, et en allant écouter tout le monde et en allant voir tout le monde. Et pendant 25 ans, j'ai parcouru comme ça toute la Lorraine pour aller écouter tout le monde. Et puis est arrivé un événement dont on ne parle pas assez, quel événement de 2005.
Mais on en parle tous les jours, Francis.
Mais on en parle tous les jours, c'est arrivé une fois,
c'est une erreur. Mais moi, j'entends, évidemment, que c'est une erreur qu'on n'a pas écouté le peuple français, mais il ne faut pas bâtir toute son argumentation sur ce seul scrutin. Si vous dites on n'est pas en démocratie. La démocratie représentative, elle existe.
Non, justement, non. Justement, il y a une dérive de notre système démocratique. Alors, vous vous trompez en disant c'est arrivé une fois, on n'a pas écouté.
On en parle tous les jours. Tous les jours à cette antenne, on en parle. Dès qu'on parle d'élection, on parle de 2005.
Oui, mais vous oubliez de dire quelque chose. C'est qu'en 2005, on avait deux possibilités. Soit on passait par les parlements, ce qu'on fait la quasi-totalité des pays en Europe, soit on passait pour ce référendum sur le traité constitutionnel européen par le peuple. Il y a trois pays qui sont passés par le peuple. L'Irlande qui a voté non, les Pays-Bas qui ont voté non, la France qui a voté non. Et on nous a dit en Irlande, c'est pas bien, attendez, là, on va, comme on était en train de négocier des choses avec l'Irlande, on va vous rajouter ci, on va vous rajouter ça. Voilà. Donc il y a un vote qu'on attend, il y a un résultat qu'on attend. Dimanche, vous pouvez mettre Mariani à la place de Muselier, ça ne changera rien. Pourquoi ? Parce que le domaine des compétences, le budget de la région PACA, c'est quelque chose qui est parfaitement établi. C'est juste de la décentralisation. Votre auditeur a parlé des lycées et des transports, mais que les lycées soient traités par la région PACA ou soient traités par un organisme central parisien comme ça l'était avant, j'imagine qu'il est plus difficile de corrompre les élus quand ça se passe à 800 km de Nice et que vous êtes à Paris pour prendre une décision de rénovation d'un lycée ou de changement d'une rame de train que quand vous êtes sur place. Et d'ailleurs, vous avez... C'est pour ça que je vous dis que...
J'ai du mal à vous suivre avec la corruption, mais bon, j'ai pas compris ce que vous voulez dire.
Vous avez tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, vous avez des problèmes de corruption dont vous parlez, des problèmes avec des responsables politiques
Tous les hommes politiques ne sont pas corrompus, Francis. Les régions n'appliquent pas non plus les mêmes politiques. Il y en a qui proposent des transports gratuits. D'autres non. Il y a quand même une possibilité pour l'exécutif régional de peser sur la vie quotidienne dans chaque région. Il y a des décisions qui sont personnelles à chaque région.
Non, c'est à la marge. C'est à la marge. Si vous discutez, je vous dis, ça ne m'empêche pas de m'intéresser énormément à la politique, de lire ce qui passe dans les budgets de mon département, de ma région, de ma grande région maintenant, ma fabuleuse grande région Grand Est, plus grande que la Belgique, où vous avez plus de 400 kilomètres qui séparent les gens du Sud-Est aux gens du Nord-Ouest de cette région, avec des budgets qui sont tirés vers l'Alsace parce que le président est alsacien. Et là, je vais vous donner un témoignage. Dans le domaine universitaire, il y a des appels à projets. Il y a des projets sur lesquels des gens que je connais ont répondu. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus répondre par les gens qui recevaient les réponses à projets ? Ah, mais vous êtes Lorrain. Ah, vous n'êtes pas alsacien, non, parce que on donne la priorité. Et là, on est dans un système réel. Donc, quand je vous parle de corruption, il y a la corruption, effectivement, avec les enveloppes, les machins. Et puis, il y a une autre corruption qu'une corruption passive.
Bon, Francis, on s'est un peu éloigné parce que vous n'alliez pas voter. C'est vrai qu'on dérive un peu. C'est les filets dérivants. C'est aussi le jeu de nos conversations. Mais bon, je comprends que vous n'avez plus aujourd'hui d'attrait pour le monde politique. Vous n'y croyez plus. Vous pensez que ça ne sert à rien, que leur marge de manœuvre est réduite et qu'on n'est pas forcément en démocratie. Et que c'est une démocratie d'apparence et que tout est organisé, sans que le peuple soit concerté. Nous sommes d'accord. À grands traits, je le résume. Il est 13h18 et je vous remercie beaucoup, Francis. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. On a la vaccination, il y a un frein à la vaccination. On a le sport, on l'a dit. On a l'avocat général qui a demandé également à ne pas réincarcérer Valérie Bacot. Vous suivez peut-être cette semaine ce procès de cette femme qui vit un calvaire, qui a vécu un calvaire depuis tant d'années. Donc vous pouvez réagir. Et puis notre camarade Greg Caradoni qui a peut-être déjà une séquence de commentaires sportifs vibrantes à nous faire écouter.
Avec plaisir, un but de Monsieur Pavard.
La frappe de Pavard, le but ! Oh, le but ! Oh, le but ! Oh, le but ! Le but de Pavard ! Il est fantastique ! Une volée fouettée du droit avant qui va chercher le côté opposé !
C'est le commentaire qui nous fait rêver à chaque fois, le commentaire envolé de Philippe.
Philippe, et puis c'est Nicolas Jargerot, c'est le but de Pavard, c'est le but de Pavard contre l'Argentine en 2018, sans doute.
Exactement.
La Coupe du Monde. Et c'est vrai que la radio, ça crée de l'imaginaire, forcément. Et ils sont formidables, Nicolas et Philippe. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Nous vous attendons dans quelques minutes sur cette question. Le sport vous fait-il toujours rêver ? Le Tour de France démarre demain à Brest. Vive le Tour ! Suivez-vous aussi avec passion l'Euro de football. La finale du top 14 de rugby ce soir est-elle pour vous un événement important ? Quel est aussi pour vous le plus grand exploit sportif ? Le plus grand champion français ? Est-ce que c'est Bernard Hinault ?
Ça, c'est une bonne question.
J'avais peut-être peur de la chute, mais je suis très content.
C'est une joie immense.
Ah oui. Ah oui, pour tout le monde, je pense.
Vous l'avez dit à qui cette victoire, Bernard ?
À tous les populations françaises, peut-être aussi.
Est-ce que vous choisissez le footballeur Michel Platini ?
Oui, Michel ! Oui, Michel ! Oui, Michel ! Et le voilà !
Et le voilà, le voilà. Vous savez quand ça date, ça ?
Quelle année ?
Novembre 81, France-Pays-Bas, but de Michel Platini sur coup franc. Je pense que c'est Rudy Kroll qui est au poteau, et il me semble, mais il faudrait vérifier.
Michel Platini ou encore Zinedine Zidane ?
But de la France ! Et c'est Zidane, ce coup de tête au premier.
Yannick Noah, sinon.
La première balle de Noah est bonne, retour de Vilander, elle est faite ! Il a gagné ! Yannick a gagné ! Yannick Noah qui s'est jeté.
Ou sinon, vous pouvez choisir pour Marcel Cerdan.
À New York, signature officielle du match Cerdan-Tonizel. Marcel Cerdan et Tonizel.
Marcel Cerdan, champion du monde des poids moyens en 1948.
Elle est excellente, votre question. Quel est le plus grand champion français de tous les temps pour vous ? Alors, c'est pas une question de palmarès, c'est une question d'émotion. Est-ce que c'est un footballeur ? Est-ce que c'est un cycliste ? On aurait pu parler d'Alain Prost. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Bruno, bonjour. Vous êtes pharmacien à Levallois.
Exactement. Bonsoir. Bonjour, Pascal.
Notre thème, c'est la vaccination. Le Premier ministre a dit « Il ne faut pas avoir peur du vaccin, il faut avoir peur du virus. Les jeunes ne veulent pas se faire vacciner. Plafond de verre. »
Eh bien voilà, c'est le problème. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à vacciner, je pense, à peu près 30 à 35 millions de personnes. Donc aujourd'hui, c'est les jeunes, le pourcentage de jeunes entre 14 ans, parce qu'aujourd'hui, on veut aussi vacciner les adolescents, donc les parents sont un peu plus réfractaires. Et il reste les jeunes entre 20 et 30 ans qui, je ne vous cache pas, ne se sentent pas concernés, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de problème de santé et ils ont compris que le Covid les atteindait pas. Donc si vous voulez... Pourquoi ils iraient se faire vacciner, même si on leur impose, ou les parents leur imposent, mais aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de sortir, d'aller en boîte et d'enlever les masques.
Et ça, vous le regrettez ?
Écoutez, moi, je vois mes clients à la pharmacie, quand ils viennent, la majorité, voire 100% des personnes à risque, aujourd'hui, je vous le confirme, sont tous vaccinés, ce qui représente à peu près peut-être 30-35 millions de la population française. Mais après... Les jeunes, oui, ils sont un peu réfractaires. Ils n'ont pas l'impression que c'est urgent de se vacciner. Mmh. Donc peut-être ça mettra plus de temps. Et je ne pense pas qu'on sera vacciné avant l'été ou avant septembre, mais peut-être pour la fin de l'année, on va augmenter. Mais c'est normal que la courbe ralentisse, parce que l'importance pour les jeunes, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vaccination. Mmh. On leur a dit depuis 2 ans qu'ils n'étaient pas touchés. Alors après, qu'il y a un variant Delta, Alpha, Oméga, ce que vous voulez, vous savez, les variants, il y en aura toujours et ça va continuer à en avoir.
Non, mais j'ai l'impression surtout, j'ai l'impression moi qu'il y a un changement de paradigme, parce que on est d'accord que au départ on nous a expliqué que le problème c'était pas tant le virus et la maladie, mais les gens fragiles et les gens qui arrivaient en réa. À partir du moment où tous les gens vulnérables sont vaccinés, ça veut dire que les réas ne seront plus, n'exploseront pas. Nous sommes d'accord. Exact. Donc maintenant, en revanche, changement de paradigme. Parce que les experts, si j'ai bien compris, souhaitent que le virus ne circule plus. Donc ce n'est pas la même chose. Et le virus, ça va être difficile de faire...
Ça n'existe pas. Les virus sont faits pour se transporter d'humain en humain et de se véhiculer à travers le monde, comme la grippe, comme tous les virus qu'on connaît. Aujourd'hui, on focus sur le variant Delta. Moi, je vous garantis, on le saura plus tard, mais le variant Delta a déjà muté en un autre variant. Mmh. On a parlé du variant anglais à l'époque. Attention, je ne minimise pas les variants, mais je suis en train de vous dire qu'on nous annonce à chaque fois des nouvelles anxiogènes un petit peu et les variants. Mais bon, jusqu'à présent, on se vaccine, on se protège et n'a pas fait les dégâts qu'on attendait.
Bon, vous, vous êtes pharmacien, c'est intéressant, parce qu'on pourrait imaginer que toutes les personnes vulnérables avec comorbidité, et ça, nous le savons aujourd'hui grâce à la sécurité sociale, nous sommes d'accord. On pourrait imaginer que toutes ces personnes doivent se faire vacciner, que ce soit quasiment obligatoire pour elles.
Elles le sont, Pascal.
Vous pensez qu'elles le sont? Vous dites 100%. Moi, vous m'avez étonné en disant ça tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens encore qui ne sont pas vaccinés et qui sont vulnérables.
Les personnes âgées, les personnes en comorbidité, les personnes de plus de 50 ans, 55 ans, je vous garantis qu'elles le sont quasiment tous. Alors, pas à 100%, j'exagère. Bon,
bah donc, a priori, les réas sont protégés. Et c'est ce qui, me semble-t-il, était le plus important. Les autres, s'ils ont le Covid, bah, ils auront le Covid. Je ne dis pas que c'est, rien, mais ils ne vont pas terminer en réanimation. Nous sommes d'accord.
Je suis d'accord, parce que depuis le début, on dit que ce sont les personnes âgées, les personnes fragiles qui doivent se faire vacciner. Aujourd'hui, on est à 35%, 35 millions de personnes, ce qui représente 50% de la population. À quel moment on arrive à l'immunité collective et à quel moment on va pouvoir vacciner? Mais ce qui reste, c'est les jeunes en vérité aujourd'hui.
Et paraît-il qu'elle est quasiment impossible, l'immunité collective, parce qu'il faudrait 95% des gens et 95% des gens n'iront pas.
Mais il y a quelque chose aussi qu'on oublie, Pascal, c'est qu'on oublie de comptabiliser les gens qui ont eu le Covid, qui ne sont pas vaccinés. Il y a des jeunes qui ne sont pas vaccinés, mais qui ont eu le Covid, qui ont, eux, des défenses immunitaires.
Oui.
Est-ce que ceux-là ont les références dans les 35 millions?
Non, on ne les référence pas, mais j'entends ce que... J'entends ce que vous dites, mais je vous répète, ce qui me frappe dans cette séquence, c'est le changement d'objectif, si j'ose dire. Longtemps, ça a été que les réas n'explosent pas, maintenant, c'est que le virus ne circule plus. Et simplement, si tu arrives pour contester un peu ça, c'est des sujets tellement sensibles...
Ah bah oui, on va vous prendre pour...
c'est vaccination obligatoire. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de ne pas se faire vacciner, très clairement. On a le droit, on a 15 ans, 17 ans, 18 ans, on a le droit de ne pas se faire vacciner.
Je vois la typologie des jeunes qui se vaccinent, c'est ceux qui partent avec leurs parents ou ceux qui partent en voyage et qui quittent la France. Il y a des pays qui réclament la vaccination. Le reste, ils attendent. Sachant que cet été, peut-être tout le monde va pas... Il y en a beaucoup qui vont rester en France. Et donc la vaccination, ils ne le voient pas comme une importance primordiale pour la rentrée. Mais je pense que sur les 6-7 prochains mois, on va avoir une petite montée de vaccination, mais sans plus. Les jeunes n'ont pas pris conscience qu'il fallait, eux, se vacciner et que ce soit obligatoire. On a fait peur aux vieux, aux personnes âgées, depuis le début. On a dit, les jeunes, c'est pas grave, on les met à l'école, on fait tout. On change un peu notre philosophie et on va vouloir vacciner les jeunes. Mais le discours du départ... C'est pas le bon.
Merci Bruno, merci beaucoup.
De rien Pascal.
Il est 13h28, une nouvelle pause et on revient. On parlera sport aussi.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Ce 25 juin marque les 12 ans de la mort de Michael Jackson. L'artiste le plus populaire de sa génération a vendu plus de 300 millions d'albums dans le monde. Mais peut-on encore écouter ses chansons avec les accusations de pédophilie qui ont lieu ces dernières années? Que représente pour vous le roi de la pop? Pour Alexandre, sur la page Facebook de l'émission, qui n'a pas d'une chanson en tête de l'artiste? Qui n'a pas vibré sur ses tubes? Inégalable pour Thierry, qu'on aime ou non. Il aura révolutionné la pop, la musique, les clips vidéo, une véritable icône. Et je ne garderai que l'artiste. Le reste, je ne veux pas en entendre parler. Ma chanson préférée, Heal the World.
Les chansons sont magnifiques, mais la question mérite d'être posée. Alors, dernier passage peut-être avec la vaccination, c'est Romaric, avant de parler de sport.
Oui,
et de...
bonjour Pascal.
Bonjour Romaric, vous habitez Saint-Brieuc, vous n'êtes pas loin du départ du Tour de France.
C'est ça, pas loin. Et sur une aire de repos entre Nantes et Rennes, ce qui fait qu'il y a pas mal de camping-cars qui, je pense, vont rejoindre justement... la Bretagne pour le Tour de France.
L'ami Christian Olivier a déjà pris le chemin de fer et il est en route vers sa Bretagne natale. Mais ce n'est pas ce qui nous importe pour le moment. La vaccination, est-ce que vous trouvez normal que ça baisse? D'ailleurs, pas le mot. Est-ce que vous comprenez que ça baisse?
Normal au sens où c'est quasiment la norme, parce que tous les pays qui étaient en avance sur la vaccination sur nous, on a vu justement ce ralentissement et cette espèce de plafond de verre. On en a parlé ensemble il y a deux semaines lors de l'intervention de l'infirmière qui était anti-vax, qui était contre le vaccin Covid. Et je pense que la cause, elle n'est pas unique. C'est-à-dire que la cause, elle est multiple. Alors, il y a effectivement le fait que les gens qui ont eu le plus peur se sont fait vacciner. Donc maintenant, on est dans le dur. il y a toujours toute chose, il y a toujours un moment où les premiers, les précurseurs y vont, et puis derrière, c'est un peu plus dur, voilà, les suiveurs, que ce soit dans l'innovation technologique ou autre. Le vaccin, c'est pareil. Après, il y a le beau temps. Les gens, bah oui, il y a les jeunes.
Le beau temps, c'est parce qu'il fait beau qu'on se vaccine pas.
Eh bah oui, parce que les
il
jeunes...
Il fait pas beau en ce moment. Ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours qu'il fait pas très beau. Donc,
Oui, mais il faut prendre un peu plus haut que 8 jours. Les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de quoi? Ils ont envie de revivre, ils ont envie d'oublier ce qu'ils ont vécu.
Enfin, c'est pas, ça dure 2 secondes de se faire vacciner, Romaric.
Ça prend 20 minutes, ouais, mais ça prend 20 minutes. Il faut prendre rendez-vous en ligne, etc. Et je vous assure qu'il y a des jeunes avec qui on parle, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire ça. Ils ont pas
ça prend une heure, me dit Greg Caradoni, qui s'est fait vacciner. Il rectifie. Une heure, vous avez mis
Le temps d'arriver, de remplir les documents, de passer la sécurité. Et puis, il y a toujours un quart d'heure minimum d'attente après la vaccination, qui parfois est poussée à 30 minutes, d'ailleurs, pour certaines personnes. Donc, ça prend vite une petite heure, oui.
Mais et puis, derrière, Pascal, il y a aussi deux autres phénomènes. Il y a déjà le phénomène de la communication. On ne nous arrête pas de nous dire que les cas baissent, on sort de la crise, entre guillemets. On est à moins de 1500 hospitalisations, donc il y a toute une frange de la population, toutes âges confondues, qui va se dire, écoutez, avec les autres, allez se faire vacciner. Pour l'instant, on s'en sort, on verra ce qui arrivera. Maintenant, la quatrième vague, et là où je suis d'accord avec le pharmacien qui était avant, elle est inéluctable, elle arrivera. Mais la gravité de cette vague-là, elle va dépendre de quoi? De la vaccination. Et puis après, il reste toujours les fausses informations, ou du moins les anti-vaccins Covid, qui, de part aussi les élections, s'expriment largement dans les médias. Et vous connaissez le Brandolini. Quand une idiotie, une fausse information répandue, il faut 5 minutes pour la fabriquer. Mais il faut une heure ou deux heures pour l'expliquer et la démonter. Et le temps aujourd'hui de Twitter, de tous les médias sociaux ou même des médias traditionnels, c'est pas ça. Et les spécialistes ont un langage parfois un peu inaccessible et où ça rend difficile de démonter les arguments. Donc aujourd'hui, on arrive à cette situation où peu importe la décision que prendra l'État, que ce soit de rendre la vaccination obligatoire, qui serait extrême, ou de dire on laisse couler, on essaie de communiquer, ce sera une mauvaise décision. Puisque ce sera récupéré soit par les anti-vax et les complotistes, ou toute la complosphère qui dira regardez, on nous rend la chose obligatoire, on nous cache quelque chose, ou alors on n'arrivera pas à atteindre cette fameuse immunité collective des 90%, mais qui cumulée de vaccinations et de gens qui ont eu le Covid et donc qui ont des anticorps naturellement, et on n'arrivera pas aux 90%, et on aura une quatrième vague grave, et ils diront regardez, la vaccination n'a servi à rien.
La quatrième vague, je ne saisis pas comment elle peut être grave si toutes les personnes fragiles et vulnérables sont vaccinées. J'ai le sentiment que le virus pourra circuler, mais ceux qu'il touchera ne termineront pas en réanimation ou avec une maladie aussi dramatique que ça a été le cas dans la première partie de l'épidémie.
Tout virus qui circule mute. Enfin, on le sait maintenant, c'est une donnée qu'on n'avait pas au début.
Oui, mais sauf que le vaccin s'adapte à toutes les variations, manifestement.
Toutes les variations qu'on connaît aujourd'hui.
Alors c'est sans fin. Alors, Romaric, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faudrait stopper. Et c'est pour ça que le changement de paradigme, que vous disiez tout à l'heure, vous avez parfaitement raison sur le changement de paradigme, Pascal. Mais la raison du changement de paradigme, elle est qu'aujourd'hui, le seul moyen d'éviter les mutations, c'est d'empêcher le virus de circuler. Et empêcher le virus.
Mais Romaric, un virus, il circule? Vous pouvez pas? Covid zéro, c'est impossible, en fait.
Il circulera. Mais zéro, c'est un fantasme. Mais entre un virus qui circule quasiment librement avec 30% de la population qui est réellement immunisée par la vaccination et donc 70% qui potentiellement peut le répandre ou l'introduire dans les EHPAD, comme ça s'est vu. Et d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas eu de cas très graves dans cet EHPAD, justement parce que les personnes fragiles étaient vaccinées. Mais derrière, il n'empêche que ça fragilise quand même les organismes de ces gens-là. Aujourd'hui, les jeunes qui sont vaccinés, ils sont vaccinés pas pour se protéger eux, mais pour protéger leur entourage. Moins le virus circulera, moins il mutera, et moins on aura de chance de voir apparaître un variant qui potentiellement va faire des ravages chez les gens qui sont en pleine santé. Chez les gens.
Merci.
Moi, j'ai 40 ans, mais potentiellement, demain, il peut y avoir un variant qui me touche aussi, qui vous touche aussi, calme.
Merci Romaric, en tout cas, merci et vive la Bretagne avec le Tour de France qui va partir de cette région de France. On va parler de sport dans une seconde avec peut-être un petit...
Vous voulez un extrait? Vous parliez du but historique de Maradona.
Oui.
Oh!
Ça vous donne des émotions, là ?
Oui, parce que ce commentaire, on le connaît, Maradona, c'était le commentaire argentin. Regardez.
Je vais écouter plutôt.
Alors là, vous n'avez pas la traduction, mais bon, il raconte, il dit que, qu'il peut mourir, que Dieu est grand, que Maradona est un génie. C'est le deuxième but de l'Argentine contre la, contre l'Angleterre. Le premier, c'était la main de Dieu. Et où Maradona a éliminé tous les joueurs.
À tout de suite. En tout cas, juste après la pub.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et puis parmi les petites nouvelles anecdotiques, bien sûr, mais qui en disent beaucoup sur la société, l'UEFA accepte de retirer les bouteilles de bière en conférence de presse à la demande des joueurs musulmans. L'organisation européenne confirme avoir demandé aux sélections de faire part de leur desiderata sur la question avant les passages en salle de presse. On se souvient que Paul Pogba avait enlevé une bouteille de bière. Eh bien, l'UEFA a écouté manifestement la demande des desiderata, pour reprendre ce mot des sélections, et il n'y aura pas de bouteille de bière. Vous l'avez peut-être vu au moment où un joueur de football s'exprimait sur la tribune, il y avait posé une bouteille de bière, ça n'existera plus. Le sport, justement, nous sommes avec Vincent qui est infirmier libéral. Est-ce que le sport vous fait toujours rêver? Bonjour Vincent. On parle du sport compétition, hein, pas le sport qu'on fait le samedi ou le dimanche ou dans la semaine pour s'entretenir.
Alors, là, ça ne fait pas Pascal, vraiment rêver. Non. Non. Et surtout que je n'ai pas le temps, parce que vous venez de le dire, je suis infirmier libéral et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu le temps ces derniers temps. Mais écoutez, ironiquement, je me porte parole pour tous mes petits patients, mes petits papis maminous, comme je les appelle, et ils ont hâte demain d'attaquer le Tour de France. Et donc oui, le sport, ça va leur faire, ils adorent ça. C'est, j'allais vous dire, le rendez-vous annuel. Bon, ils sont pas très portés sur le foot, tout ça. Moi, je suis porté plutôt sur un autre sport mécanique. Mais non, au contraire. Et quand je vous avais entendu avant 13h, justement, pendant le journal, c'est pour ça que je me suis permis de téléphoner. Et en effet, oui, le sport, c'est... Je l'ai vu collectivement, même dernièrement au Grand Prix de France. Je l'ai vu là à travers le foot. Même si je sais que France-Hongrie, j'ai quand même les Hongrois. J'ai vu quand même ce public de supporters, torse nu, à fond, à encourager. Voilà. C'était comme avant, j'allais vous dire.
Bon, quel est le sportif français, par exemple, qui vous a fait le plus rêver?
Depuis alors, c'est vrai qu'on m'a demandé ça. Oh, il y en a tellement.
Oui, mais alors, un seul ou plusieurs?
Alors, celui que j'ai dit, c'est vrai que Zidane, finale de Coupe du Monde, le pénalty qui fait Panenka.
2006.
En finale de Coupe du Monde.
Contre l'Italie. Donc là, oui. Ça vous fait rêver. Et ce jour-là, c'est.
Alors là, il faut oser.
Ah oui, il faut oser, comme vous dites. Non, mais c'est un bon exemple, vous avez raison, parce que c'est ça qui fait rêver, vous avez raison. Wow. Vous avez raison.
Vous avez raison. On est tous restés waouh.
Bon, bah écoutez, c'est bien, Vincent, vous allez participer effectivement, comme les autres, à ce Tour de France. Avec, vous êtes commissaire de course, c'est cela? Pas sur le Tour forcément, d'ailleurs.
Ah non, alors rien à voir avec le Tour de France, moi je suis plutôt Formule 1.
Ah oui, commissaire de Tour, oui, effectivement, ça va plus.
Moi je suis sur Monaco, plutôt Formule 1.
Ça va plus vite, effectivement. Bon, Richard est là également, qui est chef de projet à Besançon. Bonjour Richard, oui, est-ce que bonjour. Le sport vous fait rêver? Est-ce que ça vous fait toujours rêver même?
Bien entendu, moi j'étais, ma vie sportive, j'ai changé de sport parce que voilà, j'ai des handicaps qui font que je ne peux plus faire tout ce que je voulais. Je continue à le faire en compétition, en moto. Le sport moto me fait rêver, même quand je le regarde à la télé, bien qu'on en ait de moins en moins, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je regrette les années 80, où on avait de tous les sports. Je veux dire, le dimanche après-midi, c'était à deux, vous aviez de la gymnastique, de la natation, on voyait du rallye, on voyait des sports moto. Maintenant, c'est devenu complètement élitiste. C'est sur des chaînes privées, donc moi les courses moto, je les regarde en streaming sur une chaîne anglaise. Et je regrette d'ailleurs, en France, on focalise sur le football, on focalise sur... Alors, voilà, par moment, non.
Sur le rugby un peu, mais c'est vrai qu'on n'est pas le pays où, qui, sur les chaînes publiques, hein, diffuse sans doute le plus de sport en direct. Je pense qu'en Italie, par exemple, il y a une culture sportive, en Espagne aussi, plus importante, avec le basket, le volleyball notamment. Nous, c'est essentiellement football et rugby sur les chaînes publiques.
C'est exactement
un
ça.
Peu de tennis aussi.
Le Tour de France, voilà.
Et le Tour, bien sûr, le Tour.
Tennis, mais, voilà.
Mais c'est le Tour de France, d'ailleurs, plus que le cyclisme.
Oui, mais c'est ça. C'est vraiment... certains moments, donc voilà, le Tour de France, le reste, c'est comme ça, c'est un peu peanuts. Et moi, je regrette qu'on ne mette pas plus en avant la moto, parce que il faut savoir que la France est
c'est
la meilleure
écologique.
Nation au monde. Vous croyez que déplacer des milliers de... des dizaines de milliers de personnes dans des stades toutes les semaines, c'est écologique?
Oui, mais la moto... Je pense que la moto et la voiture vont avoir des problèmes ces prochaines années, parce que ça ne va pas être à la mode.
Bien sûr, mais il y a longtemps que c'est plus à la mode. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle pas, parce que les pilotes français... Il faut savoir que la France est la première nation au monde en termes de titres.
Non, mais c'est vrai que les Grands Prix moto ne passionnent pas le plus grand nombre, quand même. Disons-le, c'est une niche,
alors,
la moto.
Oui, mais alors, je vais vous dire oui et non. Parce que
on
n'en voit plus. Maintenant, regardez les chiffres au dernier Grand Prix de France Moto. Regardez, vous verrez les chiffres. Tout le monde a été étonné. D'autant plus qu'en ce moment, nous avons deux pilotes français qui sont un en tête du championnat du monde, l'autre qui est troisième. Si demain vous remettez le sport mécanique au niveau où il était dans les années 80, où l'on voyait vraiment le championnat du monde complet, vous verrez que les grilles sont pleines. Vous aurez des gens devant la télé, vous avez des gens dans les gradins.
Richard,
des gens
partout. J'ai longtemps été journaliste de sport et les sportifs comme vous sont des passionnés. Et ces discussions-là, je les ai eues des dizaines de fois avec parfois des amateurs de sport inconnus ou en tout cas qui n'étaient pas privilégiés. Et ils avaient le même discours que vous. Ils disaient, sur le badminton, ils étaient capables de dire que vraiment, si tu passais le badminton à la télé, la France allait s'arrêter et allait devenir une nation de badminton. J'ai peur que vous soyez un poil aveuglé par votre passion. J'ai peur que la moto reste quand même...
Effectivement, ça restera quand même de la niche, mais vous allez drainer quand même des gens passionnés de sport mécanique autre que la moto. Parce que je dirais que ça reste un sport où il y a un réel engagement et qu'il y aura toujours cette part d'incertitude.
Mais j'entends, Richard, mais parce que vous êtes un passionné. Mais tout le monde est là, vous savez, la moto, déjà, il faut être monté dessus pour s'intéresser peut-être à une moto.
Lorsque vous regardez la Formule 1 maintenant, moi, dans les années 80, je regardais la Formule 1. Mmh. Et je ne me souviens plus avoir regardé un Grand Prix, c'est devenu tellement...
Bah, ça marche tellement bien, les Grands Prix, pourtant. Hein. Je peux vous dire que les audiences sur Canal+, ça marche très très bien, la Formule 1. Ça passionne les jeunes.
Vous mettez une vidéo des batailles Alain Prost... quand je vois les Grands Prix maintenant, c'est complètement insipide, quoi. Enfin, ça ne vit pas, c'est pas. Ouais, c'est différent. Bon. Mais en attendant, moi, le sport, oui, en tout cas, me fait rêver à regarder. Je regarde le ski, bien que je puisse. Justement, avec mon handicap, je ne puisse plus en faire. Je vis le sport parce que je fais de la compétition. Je continue et je continuerai tout le temps. Et je pense que c'est ce qui est triste, voilà, c'est que du coup on a perdu, avec des émissions qui n'existent plus, le fait de découvrir d'autres sportifs, d'autres choses, voilà.
Bah merci en tout cas, Richard, parce qu'il y a de la passion. Généralement c'est un public très passionné, toujours les gens qui aiment le sport, et c'est un des publics également qu'on connaît parfois plus que le journaliste qui en parle. Donc c'est un public très très exigeant. C'est pour ça que les journalistes sportifs parfois sont confrontés à des gens qui en connaissent plus qu'eux dans la manière, dans la matière qu'ils traitent. C'est intéressant ce que je vous dis, Greg Cranini. Hein, je vous sens.
Sûr, c'est très intéressant,
bien sûr. Bien sûr.
Et donc, par contre, vous avez demandé le sportif, pour moi, le plus grand sportif.
Ah oui, dites-nous.
Alors, je vais rester sur un motard.
Ouais.
C'était Jean-Michel Bayle, qui a été le premier Français à aller gagner chez les Américains, qui a ensuite roulé en MotoGP et qui a gagné en MotoGP.
Bon, voilà. Écoutez, vous êtes fidèle donc à la moto. On va marquer une pause, sauf si Greg a un petit instant sport, revival à
nous
faire.
Un but de Michel Platini en 1984 face au Portugal.
Allons-y.
Qui reprend le ballon, Tigana qui reprend le ballon. de Figana. Extraordinaire Platini. Alors que Platini revient sur le terrain, grand enjambé maintenant. Il est embrassé par tout le monde. C'est de la folie ici dans le stade. Une superbe égalisation de Platini qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid.
Un travail extraordinaire de Figana. Platini qui était là, on l'a vu qui se préparait. Hidalgo qui a les larmes aux yeux et qui est en train
C'est le fameux but France-Portugal. Les gens qui ont vécu cette rencontre France-Portugal en 84 à Marseille, on parle avec des trémolos dans la voix. C'est un des plus grands matchs de foot et une atmosphère, une ambiance inégalée. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes donc avec Lynn. Bonjour, oui. Lynn.
Bonjour.
Qui
Pascal.
Habite la Vendée.
Oui, mais charentaise quand même.
Charentaise.
Oui.
Alors, le sport, est-ce que ça vous fait rêver?
Ah oui, le foot, Michel Platini.
Mais encore.
Alors lui, il a fait rêver mais des millions de gamins. Et il a été un précurseur pour aller jouer, un Français, aller jouer à l'étranger, acheté par un club étranger. Ça a été France Football, c'était enfin un Français dans un club étranger.
Ce qui n'était pas à l'époque très courant. Parce
non,
que je
à part Didier Six,
voilà,
qui jouait en Allemagne.
En Allemagne, à Stuttgart, et puis après,
voilà.
Il était parti en Turquie, sous le nom de Dundar.
Voilà, donc là, on voyait que que des joueurs français pouvaient enfin aller dans des grands clubs à l'étranger. Il a été un des pionniers. Il a fait de la publicité aussi, s'en est emparé, à partir de lui. Hein? Et mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Le trio Michel Hidalgo, Thierry Roland, Michel Platini, Eugène Saccomano, enfin après à la radio Eugène Saccomano, c'était quelque chose à écouter.
Non mais c'est vrai que vous avez parfaitement raison, c'est des grandes voix et c'est facteur d'émotion et donc de rêve et c'est la question que nous posons, est-ce que ça nous fait rêver? Et puis il y avait peut-être avec Platini davantage de proximité que aujourd'hui les footballeurs peuvent avoir avec le public.
Et quand j'ai regardé après l'équipe de Zidane, j'apprécie toujours l'équipe de France, je l'adore, mais j'ai retrouvé dans cette équipe de Zidane les automatismes qu'avait Michel Platini avec Manuel Amoros sur le côté, Giresse derrière, la défense, et j'ai retrouvé ces automatismes de cette équipe de Zidane par rapport à ce qu'avait déjà fait l'équipe de Platini.
Mais vous êtes quand même accro toujours au sport ou au foot aujourd'hui?
Ah oui. Ah oui, au grand dam de mon mari.
Pourquoi au grand dam de votre mari?
Parce que lui, il n'aime pas. Alors, se coucher et il me dit tu te tais.
Ah bah, il est sympa, votre mari. Pourquoi il vous demande
Oui, parce que je m'emporte devant la télé.
Mais c'est un couple inversé. C'est-à-dire que votre mari n'aime pas le sport et c'est vous qui le regardez?
Oui, oui, oui.
Et il vous dit, mais d'abord, il n'a pas à vous parler comme ça, dites-moi, votre mari, tu te
tais. Ah non, mais il rigole, il dit, mais ne t'énerve pas, ne t'énerve pas.
Ne t'énerve pas, Lynn. Bon,
oui.
Et lui, il va se coucher.
Et lui, il va se coucher.
Et donc, vous restez tout seul, il n'y a pas la télé dans le lit?
Ah non, pas dans la chambre, non, non.
D'accord, non, oui, dans le lit, dans la chambre,
non,
effectivement.
Non,
la télé
non,
dans
non.
le lit, c'est...
Non, non, puis je préfère qu'il ne soit pas là, comme ça, je peux vivre mon match tranquillement.
Ah oui, à ce point-là?
Ah oui,
donc là,
oui.
Par exemple, match France-Portugal, vous l'avez regardé toute seule?
Oh là 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 là, mon Dieu, oui. Oh, ce match.
Et votre mari est allé se coucher?
Voilà, voilà.
Et d'abord, il se couche tôt, comme le commandant?
Oui, mais il se lève à 5h le matin pour aller travailler aussi.
Bah, oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, et donc vous l'avez regardé toute seule?
Ah oui, oui, oui.
Et quand, à 23h, vous avez peut-être regardé le débrief ou vous l'avez peut-être écouté sur RTL?
Un petit peu, parce que je me levais à 6h30 pour aller en travailler.
Et quand vous rentrez dans la chambre, il dort déjà?
Oui, oui, oui.
Et là, donc, vous ne pouvez pas partager avec lui une victoire française ou une qualification française?
Je ne veux pas avec lui, non, il ne comprend rien.
Il ne comprend rien, votre mari?
Donc, ce n'est même pas la peine.
Mince, mais c'est pas rigolo ça, s'il comprend rien votre mari. Et ça vous. De pas partager comme ça, ça toujours. Vous êtes marié depuis combien de temps?
36 ans.
Et depuis 36 ans, il partage pas vos émotions de sport?
Ah non, non, non.
Jamais.
Non, non, il s'en fiche. Non, non, puis moi, je veux pas, il comprend rien. Donc je préfère en parler avec des amis qui s'en foutent, et puis voilà. Hein.
Bon, vous êtes marié à 19 ans quand même?
Oui.
Non. remarquez, ça montre que finalement, on peut ne pas partager une passion commune et vivre ensemble longtemps et manifestement avoir une vie sympathique.
Oui, j'ai eu 4 enfants. Et j'en ai 2 qui sont foot et 2 qui sont rugby.
Bon, donc il fait
tout.
Il fait quand même un peu de.
À côté de La Rochelle, alors.
Manifestement, il fait un peu de sport quand même.
Ouais, il fait de la moto, donc il est motard. Donc.
Mais entre. Mais non, qui emmenait les enfants à l'école alors? Qui a emmené les enfants au sport? C'était vous?
Ah, c'était moi.
Donc il est jamais venu au rugby et jamais venu au foot voir ses enfants?
Non, mais mes filles ont fait du judo aussi, on fait pas mal de sport. Oui, non, c'est toujours moi. Non,
et
non.
Il les a jamais vus?
Ah, si, il a dû aller à quelques compétitions, mais non, pas.
Rarement.
Ça ne l'intéressait pas, ouais.
Non, il est assez présent, je vois, votre mari.
Ah oui, mais comme ça, on avait la paix. Il s'occupait dans son garage, dans sa mécanique, allez hop.
mais ça va bien entre vous?
Ah, mais très très bien.
Oui, si vous ne vous voyez pas de notre côté et que vous ne partagez rien, c'est sûr que ça...
Si, on partage plein de choses. Peut...
Mais alors qu'est-ce que vous partagez?
Ah ben, tous les ans, on part 8 jours en moto, tous les deux, on a toujours fait ça. Avec les...
Donc une fois par an, quoi. On ne se voit pas pendant 355 jours, et puis il y a une petite dizaine de jours, quand même, il y a un espace où on prend la moto et on va se voir.
Ah oui, mais non, on se voit tout le temps, on partage tout. Oui. Bon, chacun son domaine,
mais
on partage, oui.
J'ai bien compris.
Oui, oui. Mais
j'ai plutôt l'impression que c'est... S'il faut, par exemple, qu'il faut un leader dans chaque couple, j'ai l'impression que Lynn, c'est plutôt vous qui décidez.
Oh, il a un sale caractère, hein.
Oui, mais bon.
Il faut batailler.
Oui, il faut batailler, mais j'ai l'impression que la bataille est gagnée quand même par Lynn, non?
Pas toujours.
Pas toujours. Mais non. Sur les choses importantes, quand même,
oui.
C'est vous.
Oui.
C'est vous qui tenez les cordons de la bourse, par exemple.
Ah bah bien sûr.
C'est très imagé en tout cas.
Bon, restez avec nous parce que notre semaine. Mais écoutez, notre semaine a été un peu. C'est pas toujours rigolo pour tout vous dire, notre semaine avec l'actualité.
Et on peut avec vous.
Et vous nous donnez un peu de légèreté, j'ai envie de dire, de sincérité et d'authenticité.
Et vous essayez de faire des petites blagues qui passent inaperçues a priori.
Qu'est-ce que j'ai
votre
fait
votre mari se couche tôt comme le commandant. On croyait que personne ne l'avait entendu et pourtant.
elle est fine en plus, puis elle est nouvelle.
Oui,
c'est ça qui est
très
important.
Frais.
Est-ce que Monsieur Cini va passer aujourd'hui parce que a priori
pour donner le programme dont défait le monde.
Ben nous sommes d'accord. Allez, la pause, le journal de Madame Crespin et à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le rappel des titres avec Hortense Crépin.
Reprise de l'audience aux assises de Saône-et-Loire ce matin, Valérie Bacot a fait un malaise après l'annonce des réquisitions. L'avocat général a demandé 5 ans de prison, dont 4 avec sursis à l'encontre de cette femme jugée pour le meurtre de son mari violent et proxénète. Le verdict est attendu dans la soirée. Après la loi anti-homosexuelle en Hongrie, Emmanuel Macron voit un conservatisme anti-libéral monté dans plusieurs pays européens. Le président s'est exprimé depuis Bruxelles où se tient un sommet européen. Le chef de l'État qui soutient pleinement la procédure juridique enclenchée par la Commission européenne. L'enquête pour viol concernant Patrick Poivre d'Arvor classée sans suite, les 8 plaintes déposées par différentes jeunes femmes tombent sous le coup de la prescription. La plainte déposée par le journaliste pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de Florence Porcel est elle aussi classée sans suite. Attention, si vous prenez le train en provenance ou en direction du sud, la ligne Paris-Marseille est perturbée après un acte de malveillance sur des câbles électriques. Ça s'est passé dans la Drôme. Olivier Bancel est le directeur général adjoint de SNCF Réseau.
Donc ce matin vers 3h35, nous avons été victimes d'un acte de malveillance, d'un acte de sabotage. Donc nous sommes désolés pour tous nos voyageurs qui vont en subir les désagréments. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous avons pris des mesures immédiates déjà pour que tous les TGV puissent circuler. Mais malheureusement, ils circuleront avec des retards de l'ordre de 1 heure. Donc il y a en gros 130 TGV qui sont touchés. C'est-à-dire que ce sont surtout les destinations de Marseille, Nîmes, Montpellier qui sont concernées. Pour l'instant, nous estimons qu'il faudra au moins 24 heures. Donc ça, c'est notre engagement, faire circuler tous les TGV qui sont prévus aujourd'hui.
Olivier Bancel, le directeur général adjoint production de SNCF Réseau, au micro de Lucas Bouguet. Le rugby et les supporters de Toulouse et de La Rochelle qui comptent les heures. Maintenant, coup d'envoi à 20h45 de la finale du top 14. Ce sera au Stade de France et à suivre sur RTL. La météo de cette fin de journée avec des nuages et des pluies par intermittence du bassin rennais et du pays nantais au Hauts-de-France. Sur les trois quarts sud et est du pays, le temps va rester calme avec une certaine douceur. 14 degrés à Brest, 16 à Lille et 24 à Marseille. 14h03 sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Hortense. On est avec Bernard à présent.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Bernard qui habitait les Alpes de Haute-Provence, et la question du jour était: est-ce que le sport vous fait toujours rêver? Et puis c'est l'occasion de parler des grands sportifs qui vous ont fait rêver. C'est vrai qu'il y a le top 14 ce soir, il y a le Tour de France qui démarre demain, il y a le football avec l'Euro, il y a vraiment beaucoup d'événements sportifs à cette période de l'année, donc c'était l'occasion de faire un tour d'horizon de ce sujet.
Ben c'est bien, oui, bonjour Pascal. Ben moi écoutez, j'ai été élevé dans le sport, donc le sport m'a fait rêver, me fait toujours rêver, même à 70 ans, vous voyez. Donc, et j'en ai toujours pratiqué moi-même, je dirais que j'ai fait une quinzaine d'heures de sport par semaine, hein, voilà. J'ai fait tous les sports, quoi, pratiquement. Donc le sport me fait toujours rêver, bah, c'est vrai que ça transporte. Et puis moi je suis dans les Alpes de Haute-Provence, mais je suis né à Valenciennes, que vous connaissez bien. Et donc le sport à Valenciennes, il y avait le water polo, il y avait le foot, etc. Donc vous voyez. Allô ?
Oui, je vous entends. Le water polo, d'ailleurs. Alors, le water polo, il faut être solide physiquement pour jouer au water polo. Je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup.
Moi, j'en ai pas fait. Non, mais à Valenciennes, il y avait une équipe qui était. Moi, j'ai nagé, tout ça. Mais j'ai fait des trucs, moi, en petit amateur. Mais à Valenciennes, on était il y avait une première division. À ce moment-là, on était même champion de France à l'époque, si vous voulez. Donc, la question que vous avez posée, c'est une question aussi très difficile, parce que quel est le meilleur sportif français, c'est difficile. Si vous voulez, j'aurais pu dire Alain Mimoun, j'aurais pu dire Marcel Cerdan, j'aurais même pu dire Gianni Longo. Voyez-vous.
Problème de Gianni Longo, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est une immense championne, mais précisément, peut-être que le souci qu'elle a eu dans sa carrière, c'est de ne pas faire rêver. Et cette dimension aussi quand tu es un sportif, c'est que tu dois toucher le public par une attitude, un comportement, un caractère, que sais-je. Et Gianni Longo, c'est terrible et triste d'ailleurs pour elle, parce qu'elle n'a pas toujours rencontré son public.
Non. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pourquoi j'ai pas choisi celui que j'ai choisi, moi, après avoir longuement réfléchi, hein, parce que je suis beaucoup le sport, c'est Eddie Reiner. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait rêver, justement. C'est quelqu'un on peut être qu'admiratif sur sa puissance, sur sa capacité de travail, parce que c'est quelqu'un qui, il doit travailler beaucoup, si vous voulez, pour garder son poids, par exemple. Hein. J'ai vu un reportage sur lui où lorsqu'il s'en va, quand il prend sa valise pour partir faire des compétitions, il balance dans sa valise plein de, je vais pas citer de nom de marque ici, mais plein de, vous savez, d'espèces de barres chocolatées ou des choses comme ça, aux grandes dames de tous ceux qui le suivent, quoi, si vous voulez. Mais il arrive quand même à se contrôler, et puis bon, quand même, c'est. Alors, maintenant, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il a été pendant 10 ans sans être battu, quoi, en fait. Et puis, en plus, c'est un sport qui n'était pas le sport le plus populaire en France. Hein. Le plus populaire, c'est le foot, quoi. Mais là, c'était le judo. C'est quand même quelque chose qu'on sentait plutôt vers les Asiatiques, si vous voulez, au départ. Hein. Il a battu des Japonais, des choses comme ça. Donc, moi, pour moi, et puis alors, en plus, comme vous dites, c'est un sportif qui fait rêver. Et aussi, il est... Enfin, moi, je ne le connais pas personnellement, mais tout ce qu'on peut voir sur lui, il est tellement sympathique... on a l'impression qu'il a tellement d'empathie pour les gens que c'est vraiment quelqu'un de formidable pour moi, ce type-là.
C'est vrai, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Lui, justement, il a rencontré son public à travers les médias, à travers un accès direct aussi avec les supporters, parce qu'au-delà du sport, il y a une dimension personnelle, un charisme, homme, une personnalité, et ça joue beaucoup, bien évidemment.
Si je peux me permettre, c'est quand même une gueule, en fait, si vous voulez. Voilà.
Ah oui, ça, vous l'avez pas... Moi, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Je peux vous dire qu'il est impressionnant quand vous le voyez.
Vous avez plus de chance que nous.
quand vous le voyez, je peux vous dire que ça déménage. Hein, et il est impressionnant, Teddy Reinhardt, bien sûr. Ben merci Bernard, merci
merci
aussi.
À vous.
Ah, et puis bonne journée.
Une belle question difficile, hein, voilà.
Vous savez, hier, j'écoutais les grosses têtes et il y avait une question qui était très difficile. Il y a un champion du monde. Alors, ceux qui ont écouté les grosses têtes hier, ils connaissent la réponse.
Moi, je ne l'ai pas écouté hier.
Il y a un champion du monde de Formule 1 en 1970 qui a donc été sacré champion du monde. Et il a une particularité que ni avant ni après on ne retrouvera. Quelle est cette particularité ?
Ah ça, j'en sais rien.
Alors. Eh ben, écoutez, réfléchissons et je dirai dans.
Non,
bah restez avec nous après la pause.
Ah, vous
après
la, pause. La réponse quand même.
Après la pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le sport, est-ce qu'il vous fait rêver ? Quel est le champion ou la championne française qui, selon vous, est celle qui restera dans l'histoire ? Nous sommes avec Sandrine. Bonjour Sandrine, qui habite Lyon.
Bonjour Pascal.
Et ça me fait plaisir de vous avoir parce que vous allez parler d'une sportive, alors qu'on a souvent parlé des garçons depuis tout à l'heure.
Eh oui. Si personnellement le sport me fait rêver, puisque j'en ai pratiqué différents et qu'actuellement j'en pratique toujours différents, il y a effectivement une athlète qui m'a fait rêver et qui a fait rêver beaucoup de monde, je pense, et c'est Laure Manaudou.
Je comprends, hein, d'abord parce qu'elle a des performances exceptionnelles, et puis c'est vrai qu'elle aussi a rencontré son public avec une personnalité particulière, une personnalité forte.
Oui, mais en même temps, elle a ouvert aussi beaucoup de voies et d'espérance, non content pour les nageurs, mais aussi pour de jeunes athlètes qui, puisqu'elle a pris le risque, bien sûr avec l'accord de ses parents, mais de partir de chez ses parents, de se donner les moyens d'atteindre son objectif, d'essayer d'atteindre ses rêves, et je pense qu'elle les a largement atteints. Et c'est vrai que du coup, elle a ouvert la voie, je pense, au-delà de la natation, à des athlètes qui, du coup, se sont donné les moyens de réaliser leurs rêves. Après, évidemment, dans la natation, elle a, je pense, complètement ouvert la voie aux nageurs et décomplexé beaucoup de nageurs par rapport au travail et à la natation par elle-même, en se disant, oui, on peut le faire. C'est pas parce qu'on est nageur français qu'on ne peut pas être champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, bien évidemment. Et voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de nageurs qui, du coup, après, sont là. Bon, on passera évidemment sous silence Florent. les gènes là-dessus ne mentent pas, mais oui, elle a, et je trouve qu'elle a fait vraiment rêver dans sa manière de nager. Alors après, bien sûr, les nageurs, c'est souvent une rencontre, une équipe, un nageur, un entraîneur, et le duo qu'elle a fait avec Philippe Lucas est complètement mythique, mais oui, pour moi, c'est vraiment elle qui me fait rêver, même si beaucoup d'autres sports me plaisent. Pour preuve, aujourd'hui, je suis en rouge et noir, et je pense que vous savez pourquoi.
Pour le top 14 ce soir.
Et voilà.
Eh bien, écoutez, vous serez devant votre poste, manifestement, de radio. Vous écouterez RTL ce soir, et puis vous regarderez peut-être le match à la télévision. Vous avez un pronostic ?
Alors, très honnêtement, étant rouge et noir, je ne cache pas que je suis plutôt pour le Stade Toulousain. Maintenant, je reconnais pleinement les qualités du Stade Rochelet de cette année. Et si c'est eux qui remportent, ce sera tout aussi largement mérité parce qu'ils ont vraiment fait une très, très, très belle saison. Après, non, ce soir, je serai devant ma télé puisque en raison du Covid et des matchs que l'on ne pouvait pas aller voir, et ben, on s'est offert l'abonnement Canal+ pour pouvoir au moins suivre le top 14 cette année. Voilà.
Bah écoutez, c'est un bon choix, Sandrine. Et puis, allez, le Stade Toulousain, même si je crois que j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Merci Sandrine.
Merci beaucoup. Pascal.
Julien est là. Julien qui... on va changer de sujet puisqu'on a terminé avec le sport.
On va rester dans la bonne musique après Jeanne Mas.
Exactement, et on va changer de sujet puisque aujourd'hui nous célébrons, si j'ose dire, les 12 ans de la mort de Michael Jackson. Et c'est vrai qu'on avait posé la question déjà l'année dernière, est-ce qu'on peut écouter Michael Jackson de la même façon ? La réponse est non. Clairement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend Michael Jackson, c'est comme ça. On sait ce qu'il a fait. On sait aujourd'hui qu'il est accusé de pédophilie avec des témoignages très forts qui viennent contaminer et percuter l'image qu'on avait de lui et puis tout simplement sa musique. il est moins programmé, disons-le, à la radio. Alors, Julien est avec nous. Il voulait nous en parler. Est-ce que ça vous ennuie ou pas? Et c'est une question souvent qu'on se pose entre l'artiste et son œuvre.
Eh bien, bonjour d'abord, Pascal.
Bonjour.
Déjà, je tiens à dire que toute la famille est fan de vous, premièrement, que ce soit à la radio ou ou à la télévision.
Bah, c'est gentil, on va croire que vous êtes de ma famille, Julien.
Pas du tout.
C'est gentil, en tout cas, merci.
Mais je vous en prie. Maintenant, sur Michael Jackson, déjà, la présentation est un peu partisane, parce que je suis désolé, mais soit il a été accusé, mais il n'y a jamais eu, ne serait-ce le début d'une preuve, je suis désolé de le dire, ou au pire, il a été même accusé. Donc je ne vois pas en quoi il y a.
Vous n'y croyez pas, vous, par exemple, vous ne croyez pas que ces accusations sont justes, soient justes.
Alors, on peut rentrer dans le fond du sujet, mais sur la première affaire, l'affaire Chandler, il y a de gros doutes quand même que ce soit réel, puisque le père, on a bien vu de par ses déclarations et de par des témoignages qu'il était quand même très tenté par l'argent. La deuxième accusation, Michael Jackson a été acquitté. Mmh. Et sur les deux personnes, Wade Robson et James F. Chuck, qui l'ont accusé dans un documentaire...
Qu'a diffusé M6 d'ailleurs, et qui était sidérant et poignant. Et évidemment, c'est toujours pareil, tu n'imagines pas que ces gens-là racontent des salades.
Oui, mais la preuve en est que Wade Robson a porté plainte, et la plainte au mois de mars, et ça, aucun média n'en a parlé, a été débouté.
Mais voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve.
Exactement.
Oui, mais comment voulez-vous apporter une preuve?
D'accord, mais par contre, ça ne dérange personne que Roman Polanski soit célébré au César ou qu'on diffuse toujours.
Ah, si, ça dérange d'ailleurs, ça a fait polémique, si vous me permettez. Ça a fait beaucoup polémique, Roman Polanski, à tel point qu'il a été exclu de l'Académie des Césars.
Prenons un autre sujet, Woody Allen, ça ne dérange personne, alors qu'il...
Mais ça dérange tellement que, pardonnez-moi là encore, son livre n'a même pas été édité aux États-Unis et il a été édité les mémoires en France.
Oui, mais là, il y a des preuves. Dans les deux cas, il y a des preuves.
C'est des sujets où souvent il n'y en a pas. Et puis, c'est pas des affaires comparables, parce que Roman Polanski, c'est une affaire de viol, effectivement, avec une jeune femme de 14 ans, je veux dire, dans des circonstances abominables, parce qu'il l'avait sodomisée, droguée, etc. C'est une affaire vraiment très, 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 oui, très gravissime. Michael Jackson, c'est avec des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est des choses gravissimes de la même manière. Toutes les affaires ne se ressemblent pas, et c'est ça qui est compliqué. Et puis, toutes les affaires ne sont pas les mêmes, si j'ose dire.
Il y a présomption d'innocence. En quoi est-ce que vous pouvez me prouver que Michael Jackson...
Mais je ne peux rien prouver, vous avez parfaitement raison. Alors là, je ne peux rien vous prouver. Moi, je réagis, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, Michael Jackson, c'est une idole pour moi, pour tous les gens de ma génération. C'est vraiment une idole. L'album Thriller, qui date de 83, avec Billie Jean, c'était une révolution. On était étudiants, vraiment, c'est une révolution. J'ai adoré Michael Jackson. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand je l'entends, immédiatement, je pense aux accusations de pédophilie. Voilà, immédiatement. C'est pavlovien.
Est-ce que le problème est dû aux accusations de pédophilie dont, pour l'instant, il n'y a aucune preuve, ou est-ce que le problème est dû au traitement médiatique fait de ces accusations qui, automatiquement, effectivement, ont ruiné sa carrière et ont ruiné la personne en elle-même, moralement?
Je vous laisse répondre à cette question. Julien, on marque une pause. On marque une pause et à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Michael Jackson.
Vous connaissez ça, vous ?
Cyprien Sini, bonjour. Vous venez régulièrement, mais pas à chaque fois, néanmoins. Vous êtes venu aujourd'hui et je vous en remercie pour nous donner le programme ce soir de Défait le monde.
Et oui, ça dépend de mon emploi du temps. Parfois, je peux venir, parfois, je peux pas. Mais toujours avec un grand plaisir que je vous vois.
Bien évidemment, je vous
aime. Comme quand vous m'appelez le matin à 6h50 après ma chronique du sens de l'info.
Ce qui m'a un peu surpris ce matin, parce que c'était sur les buts à l'extérieur qui comptent double. Il n'y a rien de plus simple à comprendre que ça.
Ah bah, allez dire ça à de nombreux auditeurs. Allez dire ça à Ali Assouli, un confrère formidable, journaliste sportif à Marseille, qui avait un petit peu galéré.
On le salue à vie parce que c'est un homme merveilleux. C'est quoi le programme ce soir, ami?
Ah bah, justement, on va parler foot.
Ouais.
On vous parle beaucoup des stars de l'Euro.
Oui.
Vous parler de ceux qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous savez qu'on a plus de chances de réussir Polytechnique que de devenir joueur professionnel.
Mais je le sais, ça. Je passe mon temps à dire que le football, il n'y a rien de plus sélectif qu'un joueur professionnel de football.
C'est un ascenseur social en trompe-l'œil. Bien sûr. On en parlera. On va également vous parler de l'abstention. Vous savez, toute la semaine, je vous ai entendu essayer de trouver des solutions. Mmh. Eh bien, c'est pas gagné. Je peux vous dire, on a fait le tour d'Europe ou le tour du monde des solutions pour l'abstention. On est mal barré. On parlera de l'UFA également, un peu le loser de la semaine. Et puis, on fera découvrir une personne extraordinaire. Elle a 100 ans et 6 mois. Mmh. Dimanche dernier, elle était dans un bureau de vote pour faire l'assesseur. Dimanche prochain, elle sera dans un bureau de vote pour l'assesseur. 100 ans et 6 mois.
Bah c'est bien.
C'est génial.
Mais la vie, il faut vivre formidable. Jusqu'au bout et être en forme jusqu'au bout. Quand
on trouve
peut.
Pas d'assesseur dans les bureaux de vote, elle a 100 ans, elle le fait.
Vous avez voté dimanche ?
Absolument.
Et dimanche là, vous revotez ?
Évidemment.
Bon, même si vous n'aviez pas voté, vous diriez pas le contraire.
Ah, exactement.
Bon, c'est ça. C'est, vous êtes tous pareils, les journalistes. Vous êtes terribles.
Vous, les journalistes.
Merci, monsieur Sini. Michael Jackson, vous l'écoutez ? C'est quoi votre avis ?
C'est quoi, quoi ?
Sur notre question, est-ce que c'est venu percuter les accusations de pédophilie, est-ce que c'est venu percuter votre admiration ?
À mon avis, on s'en fiche un peu, non ?
Vous êtes content d'être passé là, hein ?
Mon avis, c'est qu'au début, effectivement, ça a mis un frein, mais je pense qu'aujourd'hui, quand il y a du Michael Jackson, on pense pas tout de suite à ça. Ouais.
Moi, à chaque fois, je pense à ça immédiatement. Je disais, Pavlov.
Après, j'écoute pas Michael Jackson en général. Donc.
Bon, d'accord, vous écoutez qui ? Annie Cordy ?
Non, je suis resté bloqué, moi, dans le rock, vous savez, les années 70, tout ça.
Romuald, bonjour. Vous n'étiez pas né dans les années 70.
Non, mais alors je connais Napoléon, je n'étais pas né non plus.
Romuald, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous, Romuald. Que voulez-vous nous dire sur notre conversation ?
Que votre polémique n'a pas lieu d'être.
Que ma ?
Que votre polémique n'a pas lieu d'être.
Mais ce n'est pas une polémique.
Bravo, Romuald.
Romuald, je vous exprime un sentiment.
Est-ce que je peux vous poser juste une question, Pascal ?
Oui.
La dernière fois que vous avez entendu un titre de Prince, de David Bowie, de James Brown, de Otis Redding, enfin tous ces grands chanteurs qui ont disparu, c'est quand ?
Tous les jours.
Tous les jours à la radio ?
Tous les jours, t'écoutes, c'est possible, oui.
Ouais, j'écoute presque tous les jours.
J'écoute souvent Eric Jean-Jean le soir, donc il y a beaucoup de rock le soir entre 9h et 10h, et beaucoup...
Mais écoutez, Michael Jackson, il est intergénérationnel. J'ai des enfants qui ont 22, 24 ans, qui pensent que c'est une énorme star. Et quand ils entendent du Michael Jackson...
Romuald, la ligne n'est pas dingue, comme dit mon ami Greg Caradoni.
J'aurais jamais dit ça.
Oui, c'est ce que vous m'avez dit au casque. Donc elle n'est pas dingue, ce qui veut dire en langage... En langage normal, elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas convenable, mais les jeunes, ils parlent comme ça. Elle n'est pas dingue.
C'est Jacouille dans les visiteurs, c'est il y a 30 ans.
Non, ce que je retiens, c'est que je peux vous dire n'importe quoi dans le casque, vous le répéterez à l'antenne.
Exactement, la ligne n'est pas dingue. Mais en revanche, celui qui...
Qui est dingue.
Oui, mais qui a une vraie folie, et que nous partageons, lorsqu'il fait le débrief. Oh. C'est Monsieur Tessier.
Vous restez ?
Oui.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Allez, jeune Padawan.
C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit.
C'est Monsieur Tessier qui est entré dans le studio, tel Zorro lui aussi.
Irez-vous voter dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales ? Selon un sondage IFOP pour le JDD, la participation pourrait s'élever à 36%. Et parmi les électeurs, François.
C'est un droit qu'on a acquis de haute lutte. Et à un moment, on ne peut pas dire qu'on se plaint de nos hommes politiques quand on a la possibilité de les choisir et de les élire. Donc ce droit, qui est un droit fondamental, devient un devoir quelque part. On se doit d'aller voter.
Francis, lui, ne se sent pas concerné par ces élections.
Je ne vais plus aux urnes si j'ai quelque chose de plus intéressant à faire. Sinon, je vais aux urnes et je vote nul. Le vote est un leurre démocratique. C'est-à-dire qu'au travers du vote, on continue à nous faire croire que nous sommes en démocratie, que le peuple a les choses en main, alors que le peuple n'a pas les choses en main.
Allez, il est temps de faire entrer les artistes sur scène. Toute cette semaine, Pascal Pro a présenté l'émission. En chantant. Eh oui, vous nous avez fait découvrir vos talents de chanteur. Une nouvelle star est peut-être née. Et mesdames, messieurs, bientôt chez tous les disquaires de France, dans tous les espaces culturels, le premier album de Pascal Pro, simplement intitulé...
Ami !
Ah oui, soutenons ce projet et...
Laissez-vous tenter.
Bah oui, avec des reprises exclusives, Pascal Pro chante Luis Mariano.
Tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde.
Les tubes de votre jeunesse remixés.
Je ne t'écrirai plus. Je n'en ai plus besoin.
Et nous avons une demande de Tina Arena sur votre voix, Pascal. Ah, ça, on le veut bien. Pascal Praud sera bientôt près de chez vous, ami breton. Alors, le prix de cet album, à votre avis, Benjamin Sportouche, le grand chef du service politique de RTL?
Eh bien, on ne le sait pas.
Christian Olivier, le chef du service des sports, a écouté pour vous en exclusivité et prévoit déjà de nous le faire découvrir lors de son barbecue.
On va se régaler, je vous l'assure.
Merci, Christian. Et si la carrière de chanteur ne marche pas, Pascal, vous pourrez toujours vous lancer dans le cinéma.
Sous les lombris de l'Elysée, The Match. Éric Dupond-Moretti, 1m80, 92 kilos. Gérald Darmanin, 1m75, 75 kilos. La justice contre l'intérieur.
La gênance.
Deux ministres régaliens. Et si le gagnant n'est pas celui qu'on sait.
La gênance.
La kiffance.
Ou alors vous pouvez tenter d'être humoriste. Hein.
Et votre mari est allé se coucher.
Voilà.
D'abord, il se couche tôt, comme le commandant.
Oui, mais...
ouais, commandant couche tôt. Bon, je ne suis pas forcément sensible
c'est
à cette...
C'est un montage, ami. C'est pas tout le temps comme ça, parfois, on est
bon,
sérieux.
Je pense que Cyprien et moi, on n'est pas très sensible à cette réalisation, cette blague.
Vous êtes sensible à Flavie Flamand, peut-être.
Ah oui, parlons-en de Flavie. Nous sommes le 25 juin. Bientôt les vacances, nous allons nous séparer.
C'est quand la saison, fin de la saison pour vous?
Ah bah c'est le 2 juillet. C'est aussi le jour de mon anniversaire. Ah, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Mais si, mon petit...
Ah, vous êtes bon, est-ce que je... sous le signe du cancer.
Est-ce que je vais pouvoir prendre l'antenne à un moment donné?
Non, parce que c'est bien de parler avec vous. Et puis moi, j'aime bien vous poser des questions.
Mais oui, on adore. Alors que fait-on dans une semaine?
Mais vous viendrez guincher le 2 juillet.
Le rendez-vous est pris. Un dernier mot, Pascal.
C'était magnifique.
Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Bon, on va quand même se quitter avec une petite chanson romantique. Ah non, Greg Caradoni, s'il vous plaît. Bon, après tout.
Oh, non, mais attendez, mais ça va pas. Monsieur Tessier, il y a des gens qui nous écoutent quand même.
On est des fous.
Ah, oui, non, mais ça, c'est là, le modérateur veille. Mais je pensais que vous alliez ressortir la fameuse blague du vase de Soissons, mais ça sera pour une autre fois.
La semaine prochaine.
Une en des cas, histoires les plus extraordinaires. Ce n'est que le début. Flavie Flamand dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.